faut arrêter la machine. Il faut arrêter la machine. Sinon. Il faut parler quand tu l'enregistres. Chut.
Allez, vous allez l'entendre démarrer.
Il est 17h, c'est donc maintenant que nous continuons cette réflexion entamée il y a quelques mois autour du devenir de nos chers services publics. Maintenant que l'on se pose des questions et que l'on invite des personnes pour tenter d'y répondre. Maintenant aussi qu'a lieu la résidence du compositeur Nicolas Frise qui donnera lieu vendredi soir à un moment de société en écho à l'évolution libérale de la Poste. Ce moment, bien que inscrit dans une démarche sociale, engagée, est bien sûr un acte artistique, musical et sonore, dont nous allons d'ailleurs en direct sur la radio en rendre compte, mais pas tout à fait en diffusant tel quel ce qui se passe à la Friche, mais en réalisant à partir de cet événement une création sonore. Je vous invite donc à écouter la radio vendredi à partir de 20h30. Mais maintenant, depuis le début de la semaine, c'est une série d'émissions sur les enjeux du service public. Et aujourd'hui, pendant une heure, nous allons plus particulièrement nous intéresser à la Poste et son évolution, pour le moins réalisée dans un esprit plutôt libéral. La Poste, cette grande administration au service de l'usager, est devenue en 90 une entreprise publique. Alors, une entreprise publique au service du public ? Question. Et oui, de son statut d'administration à celui d'entreprise publique en 90, la Poste prend un virage, libéral comme je l'ai dit tout à l'heure, avec en point d'orgue le regroupement de ses services financiers avec la création de la Banque Postale le 2 janvier 2006. D'une logique de service pour des usagers à une logique de commerce avec des clients, que devient le service public postal ? Quelles sont les incidences sur le travail des postiers ? Comment évolue leur métier ? Face à cette logique de rentabilisation et de concurrence, notamment avec d'autres pays européens, les syndicats répondent, les usagers manifestent. Nous allons donc, pendant cette émission, interroger ce nouvel ordre postal avec, autour de la table, Jean-Luc Botella, qui est le nouveau secrétaire de CGT Poste. Bonjour.
Bonjour.
Et également Guy Chetier.
Tout à fait.
Voilà. Christian Garnier, qui est syndicaliste sud.
Bonjour.
Qui travaille aussi à La Poste, dans un autre service,
direction.
À la direction. Et puis Marcel Siguret, qui est un des animateurs de l'Attaque Marseille, qui sera là plutôt en regard et qui viendra aussi interroger toute cette évolution et la complexité du fonctionnement de La Poste aujourd'hui. Nous avions d'autres invités, malheureusement, qui n'ont pas pu venir comme... des employés de la Poste du service financier. Donc je ne sais pas si elles se sont fait happer par leur direction pour ne pas être avec nous cet après-midi. Et puis il y avait également des personnes de la direction de la Poste. Donc peut-être on pourrait commencer par ce point-là sur l'absence finalement de la direction à cette émission qui parle de l'évolution de la Poste. Donc ils étaient évidemment cordialement invités depuis plusieurs semaines. Ils nous ont confirmé leur présence. Jusqu'au début de cette semaine où finalement il y a comme un léger défilement, enfin carrément un défilement. Et donc on s'est posé la question au sein de Radio Grenouille du pourquoi la direction de la Poste refuse de débattre autour de questions qui sont centrales dans ce que la Poste est en train de vivre aujourd'hui et pourquoi elle refuse de communiquer donc auprès des auditeurs de la radio. Donc c'est peut-être une question auxquelles vous pouvez tenter de répondre. Peut-être que vous avez des indices, vous qui travaillez en interne. Jean-Luc Botella ou Christian Garnier.
Mais moi je pense surtout qu'en ce moment, depuis le début de l'année, là, donc il y a cette mise en place de la Banque Postale et que la Poste développe une campagne marketing très très forte sur la mise en place de la Banque Postale auprès des usagers et des clients pour elle. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet assez sensible actuellement et je pense qu'elle a peur d'entacher toute sa campagne médiatique. Vous avez pu remarquer notamment sur des spots publicitaires où ils tapent très fort, y compris en communication interne où ils tapent très fort. Ils essaient de valoriser un maximum la Banque Postale en définissant les qualités d'une banque, pour une banque qui serait au même niveau que les autres banques. Après, il faudra répondre à la question quelle utilité d'avoir une banque parmi les autres. Mais bon, je pense qu'ils ont peur du débat et justement d'être confrontés à un débat contradictoire sur cette question-là, de peur d'entacher cette campagne médiatique qui est très forte. Et puis on sort aussi dans le département d'un conflit de 4 jours de grève dans le cours du mois de mars, là, et qui justement est lié le projet de restructuration interne départementale un petit peu aussi à cette banque postale. Et donc, ils avaient peut-être peur aussi ce débat-là, parce que bon, il y a eu quand même 4 jours de grève départementale dans le département. Donc, c'est vrai que le contexte actuel ne favorise pas, pour la Poste, un bon débat.
Christian Garnier.
Je pense que ces raisons sont évidentes, mais il y a aussi, j'allais dire, des raisons plus récurrentes. J'allais dire, la Poste n'a jamais trop participé à des débats. Auparavant, c'était une administration d'État, donc c'était là relativement fermé, c'était pas ouvert du tout. Et maintenant, c'est une logique d'entreprise, mais d'entreprise multinationale. Et les entreprises multinationales, en général, ne débattent pas, elles communiquent. C'est-à-dire que, si vous voulez, elles vont vous donner une cassette, vont faire des spectacles, vont inviter les journalistes dans un cadre qui est absolument défini, maîtrisé. Mais là, c'est malheureusement, la Poste ne veut pas pouvoir confronter ses affirmations, sa propagande, disons, les critiques que pourraient être amenés à lui faire, ou les usagers, ou même des salariés ou des fonctionnaires, par l'intermédiaire de syndicalistes. Donc ce n'est pas dans la culture de la Poste de débattre. Elle n'accepte pas. C'est une culture, on est passé de la culture d'administration d'État très hiérarchique à une culture qui est tout aussi hiérarchique, mais qui est sous l'égide du privé et de la domination du marché.
Donc pour revenir sur votre présence, puisque vous êtes tous les deux syndiqués, moi je me posais la question du fait que la Poste est en train de se privatiser, on va dire à vitesse rapide. En 2009, on arrivera à une ouverture totale des capitaux, non ? C'est ça ?
Pas tout à fait, non.
Pas tout à fait. Non,
c'est l'ouverture des monopoles, la perte des monopoles au niveau du courrier fin 2009. Donc tout le courrier sera soumis à concurrence.
Voilà. Pourtant, vous êtes là, il y a beaucoup de syndicats. Donc moi, j'ai entendu parler qu'il y avait moins de personnes syndiquées au sein de la Poste qu'avant. Pourtant, avec cette évolution-là, on aurait tendance à penser que les personnes auraient besoin de se raccrocher à des valeurs sociales, donc à un repère peut-être syndical pour pouvoir défendre leurs droits, parce qu'il y en a peut-être plus besoin maintenant que du temps des fonctionnaires.
Bon, il faut déjà relativiser. La Poste, peut-être qu'il y a un peu moins de postiers syndiqués que ce qu'il en était il y a peut-être 30 ans. Bon, ça reste quand même limité, le recul syndical. Il faut le replacer dans le contexte. Il faut savoir que dans ce pays, le taux de syndicalisation, il est en moyenne, tout privé-public confondu, il est aux alentours de 8 à 9%. Bon, à la Poste, c'est certainement, on est sans doute aux alentours de 40%, entre 30 et 40% de personnels qui sont syndiqués. Autre élément, évidemment, la tendance et les dangers de l'insertion dans la mondialisation, de la libéralisation existent, mais en même temps, ça se traduit aussi par l'arrivée de nouveaux salariés qui n'ont pas de tradition de lutte, pas de tradition d'organisation, et il faut sans doute un peu de temps pour que ces gens-là se syndiquent. Vous avez des contractuels qu'on appelle, des gens qui ont été embauchés récemment et qui hésitent, parce qu'ils ont un statut précaire, à se syndiquer. Mais ce n'est pas pour ça que ils se syndiqueront pas. D'ailleurs, les élections professionnelles à la Poste montrent un taux de participation extrêmement fort, à 85 ou 88%, les gens votent et ils élisent des organisations syndicales, puisque au niveau national, si l'on prend les organisations comme la CGT ou Sud, représentent plus de la moitié à eux deux, hein, plus de la moitié des agents. Hein. Donc le taux de syndicalisation reste, à l'échelle française, très fort. C'est pas, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce recul est un problème. Je pense qu'il est peut-être il est conjoncturel, mais on s'aperçoit que maintenant, les contractuels, les jeunes contractuels qui sont arrivés, c'est un peu plus long que les fonctionnaires, mais ils commencent à se syndiquer.
Non, et puis c'est peut-être aussi une culture, le syndicat, qui peut-être que d'une génération à l'autre, elle est un peu moins forte pour la nouvelle génération, et que c'est une culture peut-être qui se travaille, qui continue à...
Là-dessus, oui, c'est évident qu'il y a une culture, et c'est pour ça que je voulais revenir sur ça. Je pense qu'il y a des réalités nationales et des réalités départementales. Il y a peut-être un petit recul, c'est vrai, en termes de syndicalisation nationalement, dans certains départements. Mais nous, c'est vrai que dans les Bouches-du-Rhône, on a la chance quand même de ne pas avoir de recul du tout. Je parle pour mon syndicat, mais je pense aussi pour le copain de Sud. Nous, plutôt depuis 10 ans, on est en évolution du nombre de syndiqués, quoi. On était en gros à peu près 1300 il y a 10 ans, on est à plus de 1600 aujourd'hui, quoi. Donc il y a une réelle évolution. Et après, il vient aussi qu'il faut savoir une chose, c'est qu'à la Poste, il y a près de 40% aujourd'hui de salariés de droit privé qui ne sont plus de fonctionnaires, quoi. Et c'est vrai que ce que disait Christian, c'est tout à fait juste. Le cheminement d'un salarié aujourd'hui pour arriver au syndicat est plus long, souvent, parce qu'il est passé par une période longue de CDD, donc qui sont des contrats qu'on peut annuler à n'importe quel moment. Donc là, je dirais que le patron a la même facile sur ce type de salarié-là. Donc pendant quelques années, parce qu'il y a des CDD, ça va de 1 an à 7 ans, quoi, chez nous, hein. Donc pendant quelques années, le patron maîtrise la situation et l'agent ne peut pas être revendicatif. Et puis après, dans un second temps, l'agent, une fois qu'il passe CDI, donc il prend son grand bol d'air, il est content, il a un emploi stable, et il lui faut encore quelques temps pour commencer à réfléchir à son pouvoir d'achat, à ses droits, à son statut. Et il devient réellement revendicatif, souvent au bout de 5-10 ans, quoi. Et donc c'est vrai que, bon, comme ça pouvait être vrai à l'époque, quand on partait à Paris, qu'on se regroupait, qu'on allait de suite voir le syndicat, parce qu'on avait des infos à aller chercher pour savoir, pour se loger, pour ça. Aujourd'hui, les agents sont embauchés sur place, ne montent plus à Paris, donc chacun vient de bords différents. Il y a vraiment des cultures sociales, des différents salariés de tous bords. Et donc, c'est au syndicat d'aller les voir et ce n'est pas eux qui viennent voir le syndicat, quoi. C'est ça la grosse différence.
Christian Garnier,
vous avez parlé de culture. Il y a aussi la question de l'organisation du travail. Parce que l'organisation du travail, l'organisation des services a changé. Et vous avez aussi une pression, j'allais dire idéologique, qui est faite. Parce que vous avez beaucoup d'activités où il y a de plus en plus d'agents qui sont seuls. Qui sont seuls, qui ont mis des objectifs commerciaux, etc. Ça favorise l'individualisme, alors qu'il y a quelques années, il y avait des structures plus importantes où les gens avaient les mêmes types d'activités, ça favorisait l'organisation collective et donc le syndicat. Alors que là, il y a beaucoup de collègues qui sont tout seuls, à qui on donne des objectifs, etc. Et là, c'est plus difficile pour qu'ils se syndiquent. Donc, ces éléments-là qui jouent.
Marcel Siguré, oui.
Juste, simplement, peut-être que les collègues peuvent expliquer aussi l'idée de la Poste, c'est que c'était perçu comme une entité. Comment dire, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement éclaté. Et que c'est vrai que dans les services éclatés, le découpage des services, mais peut-être qu'ils sont plus à même que moi pour l'expliquer, isole beaucoup plus les services et fait en sorte que les gens sont plus isolés dans leur... et ils n'ont pas une revendication globale sur sur l'image postale. Ils sont... Voilà, peut-être... Mais
peut-être justement
que les syndicalistes peuvent dire quelque chose là-dessus.
Sur le fonctionnement de la Poste aujourd'hui, parce qu'on a du mal à s'y retrouver. Peut-être trois mots. Alors là, il est difficile de faire un schéma puisqu'on est à la radio, mais c'est vrai, juste pour resituer un petit peu à nos auditeurs le fonctionnement de la Poste entre la banque postale, les services financiers, le courrier.
C'est-à-dire, il y a quelques années, la Poste était une seule entité et on passait de manière absolument simple des activités de guichet aux activités courrier, colis, ou même, parce qu'à l'époque, c'était même la fusion avec les télécoms. Donc, il y avait une grosse mobilité. Là, avec la séparation Poste-Télécom, ensuite, il a fallu ce que j'ai appelé... Il y avait une notion... une culture de service public, c'est-à-dire la personne avait un emploi et était au service du public. Là, on est venu dans une logique d'entreprise, une logique de professionnalisation. Sous-entendu, il faut on découpe l'ensemble des usagers en marché. Et là, on met des gens qui sont professionnalisés, c'est-à-dire avec des formations très pointues. Ils ne peuvent plus répondre à toutes les questions, mais ils sont spécialisés. Et ce qui fait qu'on a métierisé, c'est le terme employé par la Poste, on a métierisé la Poste, on l'a divisé en branches. Alors, il y a la branche courrier, vous avez la branche colis, vous avez la branche du réseau grand public, et vous avez maintenant la branche banque postale, services financiers qui sont transformés en banque postale. Voilà, donc c'est un petit peu, on a éclaté cette notion, et les gens qui sont maintenant dans chaque métier ont beaucoup de mal à passer d'un métier à l'autre, parce que les promotions, tout ça, sont tout à fait cloisonnées. C'est essentiellement, on sélectionne les gens à partir de leurs compétences professionnelles. Donc évidemment, ça limite les possibilités, les passerelles.
Pour continuer sur la compréhension de la nouvelle, du nouveau fonctionnement de la Poste, là on vient de dire deux mots sur la Banque Postale, comme si effectivement c'était un département comme un autre au sein du groupe La Poste. Or, on en discutait un petit peu avant antenne, c'est évident que la Banque Postale influe sur les autres départements de La Poste, influe de manière notoire et importante.
Tout à fait. Déjà, la Banque Postale, il faut le savoir, c'est une filiale de La Poste, ce n'est pas La Poste. Et la Banque Postale, aujourd'hui, c'est elle qui donne les ordres à La Poste. Donc c'est assez sympa, c'est assez irréaliste, en fait. La Poste,
donc, il y a des passerelles.
Oui, mais uniquement dans certains domaines, pas pour les agents. Donc la Banque Postale va donner les ordres à La Poste. La Poste va devenir prestataire de services de la filiale. Il faut savoir que la Banque Postale a seulement 1000 salariés. Et que la Poste, sur le réseau financier, près de 60 000. Donc c'est quand même rigolo. Donc tous les bureaux de poste et entités postales vont avoir l'enseigne Banque Postale. Voilà. Et tout ce qui est tarification ou services financiers ou produits financiers qui vont être proposés dans l'avenir, ça sera la Banque Postale qui va le définir. Et donc la Poste suivra ce que la Banque Postale lui dit.
D'accord, donc il n'y aura plus de... La Poste, enfin du bureau de poste, tel qu'on peut les voir encore au Réformé, à Colbert, etc. Tout va s'appeler Banque Postale.
Tout à fait. Tout à fait. Toutes les enseignes postales, normalement, devraient disparaître. Il y en a encore un petit peu.
Ouais. Hein,
mais
à Marseille,
il y en a encore un petit peu. Mais bon, regardez, il y a beaucoup déjà d'enseignes qui se sont transformées en Banque Postale. Ouais.
Oui, Christian.
Oui, je voulais dire une chose, c'est que, bon, si l'on regarde. Au niveau de la Poste, l'entité La Poste, elle a un chiffre d'affaires qui est assez important. Hein. Pour les auditeurs, c'est aux alentours, quelque chose de près, aux alentours de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et elle a à peu près 300 000 agents, hein, à 10 000 près. Voilà. Donc c'est pour donner un petit peu. Mm-hmm. Voilà. Et on s'aperçoit, depuis quelque temps, et la grosse activité de La Poste, c'était le courrier. Mm-hmm. C'était la plupart, le trois quarts du chiffre d'affaires était fourni par le courrier. Le courrier baisse de manière à peu près continue, même si c'est relativement limité, mais baisse régulièrement. Ça, c'est la concurrence des moyens de la communication électronique, hein, Internet ou d'autres. Et La Poste, qui se pense comme une entreprise, donc regarde les évolutions du marché, elle a vu que, sur le courrier, les marges, même si elle est, si elle était en grande partie, elle n'était pas concurrencée, ça va changer, mais que c'est pas la, disons que elle sait qu'elle ne gagnera pas beaucoup d'argent sur ce terrain, et donc elle essaye maintenant de se positionner sur le terrain financier, hein, puisque c'est non seulement là, alors on a décidé de se transformer en banque. C'est une filiale, c'est obligatoire parce que c'est elle obéit au code des banques, hein, donc c'est vraiment une situation complètement différente. C'est une filiale de droit privé, c'est comme une autre banque, hein, et donc on en espère les mêmes rendements, hein, pour arriver à avoir des chiffres, des résultats, des bénéfices consolidés à l'échelle du groupe satisfaisants, puisque maintenant c'est ce qui intéresse La Poste, c'est de dégager de la marge. En permanence, le discours qui est asséné, c'est ça, il faut dégager de la marge.
Oui.
Et c'est plus du tout rendre le service public. Il faut bien comprendre cette logique de transformation de La Poste en multinationale, même si elle reste pour l'instant avec des capitaux, uniquement des capitaux d'État. Il n'y a pas de privatisation par le capital pour l'instant. Pour l'instant. Parce qu'évidemment, avec la Banque Postale, ça sera très simple. Ils peuvent rentrer dans le capital de la Banque Postale des capitaux privés. Et d'ailleurs, nous pensons que ça va se faire relativement rapidement, parce que il faudra certainement à ce moment, enfin, faire des investissements, etc. Et là, évidemment, la pression sur les agents sera, comme l'expliquait Jean-Luc, parce que la Banque Postale définit ses objectifs, mais c'est la force de travail, c'est fourni par la Poste. Et pour éviter les distorsions de concurrence, eh bien, c'est facturé. La Poste facture à la Banque Postale, sa filiale, les services qui sont fournis par les agents. Mais on va essayer de mettre les agents, les guichetiers, aux normes des guichets de banque, en oubliant simplement que viennent dans les bureaux de poste des millions de personnes, et pas forcément des gens qui sont fortunés et qui viennent pour faire des placements financiers. Donc c'est ça, oui. La contradiction, là, va s'aggraver.
Marcel Siguré.
Oui, de l'extérieur, comme ça, comme on dirait, moi, je perçois ça comme un schéma classique d'évolution. On a déjà connu ça dans beaucoup de services publics, où d'abord on ouvre le marché sur les créneaux les plus rentables pour les entreprises privées. Hein, l'ouverture du marché pour l'électricité, ça s'est fait, comme on dirait, essentiellement sur des limites, sur que des grosses entreprises qui ont pu obtenir des contrats extrêmement avantageux. Ensuite, comment dirais-je, on appauvrit l'entité. Hein, c'est-à-dire qu'on sort de l'ensemble, comment dirais-je, la partie la plus rentable, la plus juteuse, disons. Quoi, hein, et petit à petit, comment dirais-je, il y a une. Les choses se rétrécissent. Hein, et on a ça pour tous les services publics, je veux dire. C'est un schéma classique, moi, de l'analyse qui peut apparaître sur la Poste. Le courrier, par exemple, aujourd'hui, au-delà de tout ce qui est ouvert à la concurrence, c'est le marché le plus juteux. Ce n'est pas, comment dirais-je, la distribution d'une lettre, comment dirais-je, dans un bureau de campagne. Ce n'est sûrement pas une opération, comment dirais-je, bénéficiaire. Hein. Alors peut-être qu'on pourrait parler, comment dirais-je, la notion de service public, tout ça, quoi.
Juste, oui, puis pour revenir un petit peu sur l'histoire de la Poste et puis sur les termes, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de clients et non plus d'usagers, on parle de produits et non plus de services. Or, dans l'histoire de la Poste dans les années 50, il y avait déjà eu une tentative de mettre en place une logique un peu marchande en essayant de développer, par exemple, la distribution de courriers non adressés, de ce qu'ils appellent des imprimés où il n'y a pas d'adresse. Or, il semblerait que les facteurs aient un petit peu, se sont un peu révoltés pour dire, bon, ben, nous, on n'est pas des distributeurs de courriers, notre
de
métier...
Papier, de papier, de pub, on n'est pas distributeurs de pub.
De pub, non, oui, de courrier, oui. De courrier, oui, de pub. Notre métier, évidemment, a une utilité beaucoup plus importante. Et ils ont gagné. Et donc, la Poste est effectivement rétractée. Puis là, évidemment, maintenant, depuis une dizaine d'années... C'est revenu, mais pour sur ce glissement du terme usager client, ça s'est fait petit à petit. Ça s'est fait de quoi depuis que c'est une entreprise publique depuis 10 ans. Comment on peut l'expliquer?
Je pense que ça se développe petit à petit, tout à fait, et on y est confronté systématiquement dans le cadre des négociations ou d'audiences entre le discours qu'on peut avoir syndical, sur lequel on est attaché aux services publics et donc aux usagers. Et donc celui de la Poste qui, lui, nous dit sans cesse que pour survivre, il faut restructurer, réorganiser et adapter aux clients. Donc il y a bien cette transformation qui a été faite au niveau de la direction. On n'est plus du tout le mot usager dans la bouche des gens de la direction au niveau de la Poste n'existe plus du tout.
C'est même banni.
Voilà, c'est banni. Alors que pour les postiers, hormis les syndicalistes, pour la plupart des postiers, ceux qui sont un peu plus anciens, hein, c'est vrai que les jeunes qui viennent d'être embauchés n'ont pas encore cette culture-là de service public, et ça va même être difficile de l'avoir parce qu'ils connaissent une autre poste, ils n'ont pas connu la poste service public. Mais pour les postiers qui sont là depuis quelques années, une dizaine d'années au moins, la notion de service public est importante, et c'est souvent source d'affrontement dans les organisations que la Poste propose, avec une certaine flexibilité, une augmentation de la rentabilité, et uniquement cette notion-là, en omettant même la question de la qualité de service, parce qu'on est uniquement sur la recherche du fric à n'importe quel prix, quoi. Et souvent, donc, et c'est là qu'on est sur un affrontement.
Enfin, le plus cher possible.
Voilà, oui, bien sûr, voilà. Et souvent, on est sur un affrontement là, parce que, bon, nous, syndicalistes, on souhaite bien évidemment de conserver l'emploi dans un premier temps. Dans une société telle qu'elle évolue, l'emploi est essentiel aujourd'hui, on l'a vu avec le CPE. De conserver les conditions de travail que les collègues connaissent. Donc la Poste évolue, se modernise, ça devrait plutôt faciliter le temps de travail et les conditions de travail. Au contraire, la Poste profite de la modernisation pour aggraver les conditions de travail et augmenter la rentabilité, la productivité des agents. Et aussi, en troisième partie, dans les négociations souvent, vient la question du service rendu aux usagers. Du service rendu. Et eux, on n'est plus sur du service. C'est des produits à vendre. D'ailleurs, au niveau du guichet sur lequel je suis, la Poste impose aux agents aujourd'hui, avec des objectifs, de vendre des produits à valeur ajoutée.
Christian Garnier.
Oui, je voulais dire attention, parce que la Poste, j'allais dire, a un comportement schizophrénique. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a un abandon tous les jours de la notion de la logique de service public. Mais par contre, en termes de communication, la Poste, parce que c'est porteur aussi. C'est, disons, quand on voit les images, les sondages qui sont faits, ça, la Poste, elle a besoin de ça. Donc, officiellement, elle affirme que la Poste continue à défendre le service public. D'ailleurs, la séparation en 90, quand il y a eu la transformation de l'administration d'État en entreprise publique, eh bien, l'argument, c'était de dire, voilà, on va faire un peu de commercial, parce que c'est pour faire vivre le service public. En somme, on passe par l'intermédiaire des clients, mais pour sauver le service public. C'est comme ça que ça a été vendu aux agents, parce que, évidemment, les agents étaient dans une culture de service public, et il a fallu aller, j'allais dire, la Poste allait doucement, avec une prudence de Sioux, et donc on est passé de cette idée avec, voilà, il faut, on commence à faire un peu de commercial, mais pour pouvoir équilibrer nos comptes, en somme, et pour pouvoir rendre un service. Et évidemment, après, la logique de marché a pris de plus en plus de place. Et maintenant, les discours qui sont tenus, c'est plus du tout ça. On fait ce qu'on appelle des ETC, des espaces-temps communication. C'est-à-dire, on fait du coaching dans chaque établissement. Le chef d'établissement, une fois par semaine, il vous explique comment, ce qu'il faut vendre, les produits, etc. Et on favorise les produits à haute valeur ajoutée. Quand vous avez deux produits identiques, un produit basique, j'allais dire, et un autre, eh bien, il faut que le guichetier propose d'abord le produit qui rapporte le plus. Si le client renacle, alors on lui propose l'autre. Et vous avez l'exemple typique, par exemple, dans les bureaux de poste, vous aviez le collier éco, c'est le collier économique. Eh bien, ça, les guichetiers avaient interdiction d'en faire la réclame. On passait au colissimo, qui coûte beaucoup plus cher. Et maintenant est arrivé au bout, c'est-à-dire que la Poste prend prétexte du fait qu'il n'y a pas beaucoup de commandes de Colieco pour le supprimer. Le Colieco n'existe plus, et vous n'avez plus maintenant que le Colissimo. Voilà, ça c'est l'exemple typique d'une logique d'entreprise, une logique financière, qui est, on parlait tout à l'heure d'usager et client, voilà la différence. Quand on a affaire à un usager, le guichetier va proposer à la personne ce qui est le plus adapté à son besoin. S'il n'a pas besoin d'avoir un colis très rapidement, etc., il ne voit pas pourquoi il va y faire payer un service 5 fois plus cher avec le Colissimo. Mais là, non, c'est le contraire. Vous avez pareil pour les enveloppes préaffranchies. Quelqu'un qui arrive dans un bureau, il va demander un timbre, et bien on va lui fourguer des enveloppes préaffranchies qui coûtent 10% de plus. C'est là où on voit que ce n'est plus la culture de service public, c'est la culture d'entreprise où on a affaire à un client, il faut gagner, il faut sortir le maximum d'argent de ce client. Voilà donc c'est ce qui est à l'œuvre aujourd'hui.
Alors sur la question oui Marcel Siguret, attaque, hein, je reprécise que vous êtes là, non pas en tant que postier, ni en tant que...
Comment dirais-je, moi je suis un peu moins optimiste que mes collègues syndiqués. Je pense
ils n'ont pas l'air trop optimistes en même temps.
Mais quand même, je pense que l'évolution de la Poste comme celle des services publics en général va se faire, comment dirais-je, comme je disais tout à l'heure, en vidant tout ce qui est profitable. C'est-à-dire que les services publics n'auront plus à s'occuper que des déserts régionaux et de ce qui est une charge pour l'État. Bon, ça, c'est une chose. Ce qui fait que ça pose, le problème, de mon point de vue, se pose plus dans la définition de ce que doit être un service public, quelle est son essence dans la structuration du territoire, dans le lien social qu'il crée. Et dans ce qu'il amène, qu'est-ce qu'il représente dans le produit international brut comme élément de répartition aussi de la richesse de la nation, de façon à ce que on soit dans une redéfinition, parce que je pense que sur les services publics, il y a une nécessité de les refonder, de les redéfinir et de les réancrer dans la conscience des citoyens pour qu'ils puissent en apprécier la raison profonde. Hein. Le service public, c'est la péréquation. Hein. C'est qu'une lettre soit dans les basses Alpes, dans les hautes Alpes, n'importe quel coin, c'est, comment dire, c'est 53 centimes d'euros, là, là, et que ce soit en plein centre de Marseille, c'est le même prix. C'est-à-dire que l'ensemble du coût, comme les services publics ont été établis au terme de après la guerre, je veux dire, ce système de péréquation pour l'électricité, pour un certain nombre de services, pour les chemins de fer, ou comment dirais-je, les chemins de fer, c'était tant de kilomètres. Quoi, hein. Mmh. Bon. Et je crois qu'il y a une nécessité profonde de redéfinir cela de façon à ce que les citoyens, et notamment les plus modestes, bien sûr, puissent se rendre compte que ce qu'un service public amène. Quoi.
Bien sûr.
Alors que comment dirais-je, même si les gens pensent que le service public globalement amène quelque chose, je veux dire, quand il y a des batailles pour défendre le service public, aujourd'hui, l'histoire fait que ce sont les syndicats qui ont pris en charge la défense du service public, les syndicats des services publics. Et ce qui fait que ce n'est pas forcément légitime, je veux dire, qu'ils soient défenseurs de leur emploi parce qu'ils sont dans le service public, c'est légitime. Mm-hmm. Mais qu'ils soient défenseurs des services publics, on peut imaginer que c'est d'abord, peut-être avec les syndicats, le rôle des citoyens, comment on dirait.
Oui.
Et c'est vrai que les partis politiques, les associations ont abandonné ce terrain aux syndicats, je veux dire.
Alors, il y a une émission qui va traiter de ce sujet-là demain, justement, des services publics et la relation entre les services publics et les politiques, les différents partis politiques. Donc, une émission qui est consacrée à ça demain à la même heure. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment, on se focalise vraiment sur l'évolution de la Poste et en l'occurrence de l'influence de la Banque Postale.
Pour autant, c'est un service public et c'est exemplaire de cela aussi.
Donc
parce que la Poste, comment dirais-je, c'est l'irrigation du territoire national.
Alors juste, j'aimerais qu'on revienne sur cette idée de recrutement et qu'on écoute un extrait d'un entretien qu'a fait Julie Demuère avec Marie Cartier, qui est une sociologue qui a travaillé pendant plusieurs années donc, sur le terrain des facteurs, qui en a rencontré un certain nombre, qui les a suivis dans leur tournée. Et on se rend compte, évidemment, en lisant son livre, que le recrutement et a complètement changé, que les caractéristiques sociales demandées aux recrues ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'elles étaient il y a quelques années, et que là, ça va être une qualité que d'avoir un passé peut-être commercial ou d'avoir travaillé à McDo, etc. Ça peut être un atout pour pouvoir être facteur. Donc je vous propose d'écouter Marie Cartier.
Maintenant. Alors, je dirais oui et non, parce que, comment dire, cette transformation des caractéristiques sociales des recrues, elle a aussi été accompagnée par l'entreprise La Poste, qui tout d'un coup s'est dit, par exemple, que avoir des gens plus diplômés, c'était mieux, finalement, ça donnerait une meilleure image de La Poste, etc. Donc, ce mouvement, il a aussi été encouragé par l'entreprise, quitte après à se rendre compte que ça posait des problèmes terribles dans les bureaux, puisqu'on s'est trouvé avec, par exemple, des décalages de ressources scolaires entre le personnel d'exécution et les chefs, parfois très importants, avec des chefs, en fait, moins diplômés, bien moins diplômés que les gens qu'ils avaient encadrés. Mais sinon, La Poste a quand même accompagné ce mouvement. Et je pense aussi, en se rendant pas compte, enfin, comment dire, en se rendant pas compte que ces facteurs d'origine populaire, etc., ils avaient aussi leur manière propre de fabriquer un service public ouvert et accessible à tous. J'ai toujours gardé en tête ce propos d'une factrice qui disait que, racontant tous les petits services qu'elle rendait aux familles autour du travail administratif ou des papiers, etc., elle avait eu cette formule, elle disait une factrice est toujours mieux accueillie dans les familles populaires qu'une assistante sociale. Et donc ça renvoie bien à l'idée de l'accessibilité à de larges milieux, de ce petit fonctionnaire qu'est le facteur, et en encourageant aussi cette évolution des caractéristiques sociales du personnel, on rend moins possible ces formes d'assistance de certaines populations, mais de façon indirecte. Parce que voilà, le facteur, c'est pas l'assistante sociale. Il y a peut-être moins d'humiliation à être aidé dans sa vie quotidienne par le facteur qui, entre deux blagues, donne un coup de main, que par d'autres fonctionnaires qui incarnent davantage l'État. Et du coup, voilà, donc l'entreprise, elle a aussi laissé encourager cette évolution des caractéristiques sociales des recrues, avec l'idée, oui, voilà, l'idée aussi, c'était que comme il y avait toujours le souci de donner une place de plus en plus importante aux tâches commerciales, il y avait l'idée que finalement, voilà, ces facteurs plus diplômés, plus présentables, etc., seraient peut-être aussi de meilleurs vendeurs. Et donc, c'est là aussi qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur qu'est-ce que c'est le service postal, à quoi ça sert, etc. Quoi.
Voilà, Marie Cartier, donc un extrait de l'entretien qu'a fait Julie Demuère avec elle. Marie Cartier, qui est donc sociologue, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les facteurs et leur tournée ». Christian Garnier ou Jean-Luc Botella, donc tous les deux, vous travaillez au sein de La Poste et vous êtes tous les deux syndicalistes dans des groupes différents, mais néanmoins, vous vous entendez. Comment vous réagissez sur ce que... Enfin, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce que dit Marie.
Moi, je...
Jean-Luc
Oui et non, voilà.
Donc, d'accord, Christian, pareil, d'accord.
Voilà. Disons que ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient de faire sortir au grand jour que le facteur, déjà, a un rôle social. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité que La Poste ne veut pas reconnaître. Dans le cadre de réorganisation, dans le temps de travail, La Poste ne le reconnaît pas, ce rôle social-là. Elle calcule la quantité de travail des agents uniquement en fonction de la charge de travail, le poids, le nombre de plis et tout ça. Et le rôle social n'est pas reconnu. Par contre, indirectement, elle le reconnaît puisqu'en ce moment, elle est en train de proposer des services payants aux usagers qui donc seraient effectués pendant le temps de travail des agents. Du style, bon, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, bonjour facteur.
Oui, une opération bonjour facteur.
Voilà, ouais. Voilà. Où là, le facteur, pour 3 euros payé à la poste, irait taper à la porte d'une personne âgée, vérifier si tout va bien et tout ça.
Lui apporter le courrier directement sur sa table, dans voilà. Son lit.
Ou alors, tout simplement, elle vendrait d'autres prestations et je pense que la poste va tenter de développer ces aspects-là. Alors que le facteur, actuellement, naturellement, tous les jours, quand il part sur sa tournée, il répond à des besoins des usagers. Il rend des services, il leur poste des lettres, il discute, des fois même il retire de l'argent pour certaines personnes âgées. Il fait tout un tas de services. Donc c'est vrai que le rôle social du facteur, dans ce discours-là, il est bien ressorti. Et bon, aujourd'hui, comme on est dans une poste qui recherche uniquement la rentabilité, il n'est pas pris en compte. Après, sur les agents diplômés, je dirais que oui et non. Il y a dans beaucoup de jeunes, La Poste embauche beaucoup de jeunes, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'on craignait le CPE, parce que bon, ça aurait pu être un domaine où La Poste aurait pu développer beaucoup de CPE, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de jeunes de moins de 26 ans à La Poste en ce moment, quoi. Et donc là, c'est pareil. On va dire que oui, effectivement, il y a des jeunes diplômés qui rentrent, mais pas tous. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne sont pas du tout diplômés qui rentrent à La Poste. Donc on a les deux, quoi. C'est vrai et pas vrai en même temps, quoi. Donc effectivement, les jeunes diplômés, ça peut donner une certaine image dynamique à La Poste, mais c'est vrai aussi que ces jeunes diplômés là, c'est souvent ceux qui ont le plus de difficultés à s'adapter au métier de facteur, qui est un métier manuel à la base, quoi.
Oui, et puis est-ce qu'ils vont avoir aussi ce même esprit de leur utilité sociale? Christian Garnier.
Oui, je mettrais un bémol à ce qui a été dit, parce que, bon, c'est pas tout à fait quand même... Enfin, il faut le replacer dans le contexte. Alors, évidemment que les facteurs sont plus diplômés aujourd'hui que ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Mais c'est l'ensemble de la société qui est comme ça. C'est pas spécifique aux facteurs. Et je ne pense pas... Bon, on dira pique-pendre de la direction de La Poste, mais je ne pense pas que la volonté de La Poste, aujourd'hui en tout cas, c'était de recruter des facteurs trop diplômés, bien au contraire, puisque bon, ça leur fait des difficultés. Il y a quelque temps, La Poste, enfin il y a quelque temps, je veux dire il y a 15 ans, ils ont essayé justement de transformer les facteurs, comme pointe avancée du commercial, parce qu'ils étaient au contact du public. C'était vraiment ça aurait pu être des VRP, et il y en a qui ont essayé, mais bon, ils ont pas, les facteurs ont résisté, ils ont maintenu le rôle social plutôt que le rôle commercial, disons, et par contre, et donc la Poste a changé. Maintenant, on n'exige plus des facteurs, la pression commerciale, elle est surtout sur les guichetiers. Elle est surtout sur les guichetiers, et si on recrute des gens qui sont diplômés, on recrute surtout des diplômés pour faire COFI, pour faire conseiller financier, pour faire ou vendeur de contrat de courrier. C'est donc pas tout à fait dans cette vision. Je ne pense pas que c'est la Poste ait voulu avoir des facteurs plus diplômés, d'autant que ce que dit Jean-Luc est tout à fait juste. Et comme il n'y a plus de concours. Paradoxalement, auparavant, quand vous étiez facteur, il fallait quand même un certain niveau. Vous aviez un concours écrit qui demandait... aujourd'hui, la Poste recrute d'abord des CDD. Elle voit un peu s'ils font l'affaire. On les laisse dans ce qu'ils appellent un terme assez scandaleux, vivier. Et ils restent là plusieurs années. On leur fait passer un petit examen pour savoir s'ils savent à peu près écrire. Et après, au bout de quelques temps, on leur donne un CDI, ils sont titularisés. Mais ce n'est pas forcément... je ne pense pas que cette remarque, moi, je ne la partage pas tout à fait par l'expérience que j'ai. Et après, deuxième point, attention, les facteurs, il y a les facteurs des villes et les facteurs des campagnes. Et le rôle social existe dans les deux, mais il n'est pas tout à fait pareil. Alors évidemment, parce qu'on a dit, pour les vieux, tout ça... Il y a même les facteurs, on a demandé de vendre du pain, etc. C'est assez une logique, mais plus qui dépasse même les facteurs, puisque la Poste voudrait transformer les bureaux de poste en enseignes, où on vendrait un peu de tout. Donc là, c'est possible qu'on redemande de nouveau aux facteurs de jouer ce rôle-là. Hein. Alors à la campagne, c'est un rôle de lien social vraiment très très important. À la ville, c'est moins le cas. C'est moins le cas parce que c'est plus anonyme à la ville et que le lien social est difficile à s'exprimer quand vous êtes dans une cité, etc. Bien souvent, c'est difficile d'aller dans les cités, d'avoir du lien social. Et à la limite, le lien social, là, il joue sur les guichetiers parce que c'est les gens qui vont aux prestations, aux RMI, qui ont des difficultés, etc. Et là, c'est les guichetiers. C'est beaucoup là, j'allais dire, dans les villes, c'est plutôt le guichetier qui a ce rôle social. Mm-hmm. Sauf dans
Mais
certains quartiers.
Mais qui est rôle social qui est évidemment freiné pour les facteurs parce que par manque de temps, puisque maintenant les tournées sont minutées presque, qui est limité aussi pour les guichetiers, parce que pareil, il n'y a une queue de 200 mètres dans la Poste, donc on ne va pas commencer à faire du social et à jouer les psychanalystes, alors que il y a beaucoup de monde derrière. Et puis il y a un enjeu surtout de vendre du produit financier ou autre le plus possible. Donc c'est un petit peu ce souci-là. Marcel Siguret.
Juste un point qu'on avait évoqué tout à l'heure en discutant. Le réseau des bureaux de poste, disaient mes collègues, c'est 17 000 contacts. Dans les 17 000 contacts, disait-il, il y en a 11 000 qui sont des contacts humains. Le reste, c'est des contacts pas forcément humains, ça peut être des machines, quoi. Deuxièmement, comme on dit, des rôles où la poste en elle-même n'est pas présente, où ça peut être un polyvalent quelconque. Deuxième chose, l'assistante sociale, quand elle passe chez quelqu'un d'âgé ou quoi, elle peut faire beaucoup de choses. Elle n'a pas un rôle neutre. Elle peut lui retirer des allocations, elle peut le faire hospitaliser. Le facteur, non. Le facteur, il a le rôle social le plus neutre qui existe. Et c'est vrai que sa visite est sans risque. Elle ne peut être que profitable, quoi. Hein.
Pour oui, Jean-Luc.
Non, parce que je voulais rajouter quelque chose sur le facteur, parce qu'on est sur la partie du facteur. On est les usagers n'en ont pas conscience, mais on est à un véritable tournant en ce moment sur les facteurs. Aujourd'hui, le facteur distribue la totalité du courrier, c'est-à-dire que donc il joue son rôle pleinement, et l'usager voit un seul interlocuteur. C'est le facteur, son facteur qu'il voit tous les matins. Or, la Poste est en train de mettre en place là des nouvelles organisations de travail où elle va segmentariser le courrier. C'est-à-dire, elle va créer des équipes dans une même entité. Une équipe qui pourrait distribuer les postes impact, donc tout ce qui est plastique, publicité, adressé, tout ça. Une équipe qui distribuerait les recommandés. Une autre équipe qui distribuerait le petit format, tout ça. Et elle va mettre ces équipes-là en opposition sur la qualité de service, tout ça. En affichant une sorte de petite carotte à la prime, pour l'équipe qui aurait une meilleure qualité de service en fin d'année. Et donc, ça s'appelle, c'est un nouveau projet, ça s'appelle le métier facteur d'avenir, métier de confiance.
Donc, on aurait plusieurs facteurs.
Voilà, les mots sont très jolis, mais la réalité, c'est que c'est une nouvelle organisation très, très, très flexible qui va amener à ce que les facteurs, quand il y a un absent, s'auto-remplacent. Les collègues feront leur tournée plus une demi-tournée. Donc, dans toute cette organisation-là qui va être proposée, tout l'aspect rôle social, discussion, prendre le temps avec l'usager, expliquer les produits, les services et tout ça, va complètement disparaître. Et l'usager n'aura plus d'interlocuteur particulier. Il va pouvoir passer dans une même journée 3 à 4 facteurs. Je rajoute les facteurs colis, par exemple. Il peut voir 3 ou 4 facteurs dans la même journée. Enfin, si on pourra appeler toujours ça des facteurs, je ne sais pas, même à la limite.
Aujourd'hui, à Marseille, 3 déjà.
Et surtout... Un élément, Jean-Luc doit bien le savoir, ça, c'est que ce qui faisait le rôle social aussi, c'est que le facteur avait une tournée. Il était, j'allais dire, titulaire d'une tournée. C'est-à-dire, c'est toujours le même facteur, sauf quand il est absent et qu'il est remplacé, donc ce qui permet de créer du lien social. Ce que veut essayer, ce que va faire la Poste, ce qu'elle essaye de faire, c'est d'enlever ce lien. C'est-à-dire, le facteur ne sera plus titulaire de sa tournée.
Oui, il était libre et de la construire comme il voulait aussi, sa tournée.
Disons, oui, sinon, pas tout à fait, il avait des cadres, mais si, disons qu'il connaissait ses usagers. Et ses usagers le connaissaient.
Oui, toujours les mêmes.
Alors, c'était auparavant, quand il n'y avait pas la coupure entre le courrier et le colis, le facteur, c'était le même. Aujourd'hui, ils ont séparé. Et on voit ce qui se passe dans le colis, qui a été pour partie filialisé. Il n'y a plus cette notion de tournée. Vous arrivez le matin, vous ne savez pas. Quand vous êtes distributeur de colis, vous ne savez pas quelle tournée vous allez faire. On va vous dire, ah ben voilà, tiens, aujourd'hui tu fais la tournée numéro 3, demain la tournée numéro 4, etc. Ce qui permet de combler les vides et tout, et d'augmenter en productivité pour la Poste. Mais évidemment, vous cassez le lien social. Et tout le gros problème de la Poste, depuis des années, c'est justement de casser cette notion de titulaire de tournée. C'est-à-dire le facteur, quand il a été mis en place, il a une tournée, eh bien on peut plus lui enlever, disons, cette tournée. Donc ça veut dire qu'il connaît du monde. Et ça c'est tout à fait positif dans la question du service public, c'est la question de proximité. Le jour où vous enlevez ça, eh bien évidemment, ça devient un distributeur, comme l'a dit Jean-Luc, ou de recommandé. Alors, ou de papier.
D'un côté, ils l'enlèvent, mais de l'autre, ils utilisent quand même cette notion de service public pour en faire un atout, puisque ça l'a toujours été, un atout, cet atout de proximité, comme ça la Poste l'a toujours eu, mais ils en font un atout payant, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais ça va très loin, c'est-à-dire que, là j'ai vu dans un documentaire qui est passé sur France 5 autour de cette question-là, qu'un usager, enfin une personne, pourrait appeler la Poste pour une fuite d'eau, pour monter un meuble, pour les petits problèmes comme ça de la vie quotidienne, on peut appeler la Poste, moyennant évidemment un abonnement, pour pouvoir être aidé à gérer, donc ça devient du service privé.
Tout à fait. Et là moi, je suis, je dirais, assez fortement contre ce genre de service-là, parce qu'en plus de ça, ça peut être intéressant dans un premier temps, parce que ça peut créer de l'emploi, des services, en plus. Mais le bémol, c'est qu'on risque de mettre en concurrence. Donc la Poste utilise son réseau de proximité, et c'est le plus gros réseau de proximité qui est sur le territoire. On a des accès à peu près partout. Pour vendre des produits, des services produits, quoi, qu'on vend, mais qui risquent d'être en concurrence. Par exemple, dans un département, ils veulent vendre un service pour relever les compteurs d'eau. Vous comprenez ? Donc on va être en concurrence directement avec la société qui s'occupe de relever les compteurs d'eau. Et donc, on va prendre quelque part de l'emploi de l'autre côté, qui est déjà, lui, devrait être un autre service public.
Donc, de toute façon, maintenant, toutes ces entreprises qui étaient des services publics qui ne le sont plus sont en concurrence entre elles.
Voilà. Et donc, là, il y a vraiment un problème. Je pense que les postiers, globalement, sont assez contre ce genre de service-là. Développer un service sur lequel c'est une idée nouvelle, pourquoi pas ? Moderniser, c'est ça la société, c'est pas un problème, c'est améliorer les choses, la vie quotidienne des citoyens, c'est un bien-être, c'est essentiel. Par contre, développer des services pour mettre en concurrence sur un service où quelqu'un pratique déjà ce service-là, là non, je suis pas d'accord du tout. On est avant tout le service de communication, du courrier et, des financiers de l'autre côté. Donc il faut rester dans notre domaine, quoi.
Deux mots peut-être sur cette évolution nécessaire de la Poste, d'après ce que dit la direction, au vu de la concurrence européenne, qu'il était donc indispensable d'ouvrir le marché de la Poste pour pouvoir faire face à la concurrence des pays du Nord. Parce que la Banque Postale a été créée par l'Europe, d'après ce que j'ai compris.
Oui. Disons qu'il y a eu
sur une directive européenne.
Voilà, enfin, disons, il y a eu la loi sur la régulation postale. Cette loi-là comprend tout un tas d'articles, dont le premier, la libéralisation de la partie courrier, donc la perte des monopoles. Effectivement, est inclus dedans, il me semble bien, quand même.
Christian Garnier, vous n'êtes pas d'accord?
Je laisse Jean-Luc, mais non, je n'étais pas d'accord uniquement sur la Banque Postale. La Banque Postale n'est pas une création de l'Europe. Ça, c'est tout à fait un choix politique interne à la France. Après, j'interviens tout à l'heure, mais je laisse Jean-Luc parler.
Donc, effectivement, la Poste a tenté, de par cette loi, de négocier, effectivement, de développer d'autres produits que la Poste ne faisait pas. Je pense notamment aux prêts à la Conso. La Poste faisait uniquement des prêts immobiliers. Voilà. Et donc, en tentant de prendre ce part de marché-là, elle a été obligée de signer un contrat de plan avec donc le gouvernement, dans lequel est défini donc qu'elle pouvait avoir accès au prêt à la Conso, mais par contre, elle est obligée aussi de livrer certaines parties qu'elle avait, elle, c'est-à-dire notamment le livret A, et où tout ça, où les banques vont pouvoir maintenant prendre certaines parts de marché. Et derrière ça, elle est dans l'obligation aussi de réévaluer pratiquement toutes ces tarifications. Donc les conséquences immédiates pour l'usager de la Banque Postale, c'est une revalorisation de toutes les tarifications de la Poste. Et on va se retrouver avec des tarifications pratiquement idem qu'avec les banques. Alors que c'est ce que je vous ai dit en tout début, est-ce qu'aujourd'hui en France on a besoin d'une banque de plus parmi les autres, ou est-ce qu'il faut garder notre identité Poste, une banque accessible à tous, avec justement des moyens, des aménagements tarifaires et au niveau des services pour tous les citoyens. Voilà.
Oui, alors je voudrais simplement intervenir sur la question de l'Europe. Bon, l'Europe a depuis plusieurs années engagé sous l'égide des libéraux, parce que c'est une Europe qui est sous la direction idéologique du libéralisme économique. Son objectif, c'est de démanteler les monopoles publics. Et l'espèce de dogme en disant que si on démantèle les monopoles publics, les prix vont baisser. Bon, l'expérience des 20 dernières années montre pas du tout cette situation. Mais enfin, en tout cas, c'est comme ça. Donc, ils ont fait des directives pour ouvrir le marché du courrier, qui était le seul, au départ, qui était, sous monopole. Mais le colis n'était pas sous monopole. Les opérations financières n'étaient pas sous monopole, les CCP étaient en zone concurrentielle. Dans la Poste, il faut savoir qu'elle était déjà, elle évoluait déjà dans une situation concurrentielle. L'Europe a ouvert le monopole du courrier à partir du moment où il y a eu des avancées, c'est-à-dire quand le courrier, il y a eu des possibilités de réaliser des gains parce qu'on a mécanisé massivement le courrier et donc on a surtout mécanisé, on a visé. Jean-Luc le parlait tout à l'heure, la segmentation du marché, on a visé le marché des entreprises. Aujourd'hui, il faut savoir que plus de 85% du chiffre d'affaires du courrier est réalisé par les entreprises. Les usagers de base, c'est peu. Et évidemment, la Poste a tendance, puisqu'elle perd de l'argent là-dessus, sur eux, donc à les diminuer. Donc, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu diverses directives visant à ouvrir le marché. On a fait des étapes parce que c'était la Poste pouvait perdre des pertes de marché importantes et dont son équilibre financier aurait été en jeu. Ça s'est échelonné sur 9 ans en principe, puisque en 2009, ça sera complètement ouvert. Et là-dessus, bon, la Poste en a profité pour moderniser. Elle a mis en place des plateformes industrielles, le courrier industriel. Elle supprime des emplois. On pense qu'elle va supprimer de l'ordre de 30 à 40 000 emplois dans le courrier et les centres de tri, puisque ça, c'est lié, c'est la même entité. Et tout ça pour pouvoir se positionner et être un acteur principal. C'est une logique d'entreprise multinationale. Ils veulent prendre des parts de marché au niveau européen, parce qu'en même temps, ce processus, on le voit en France, mais ce qu'on ne voit pas, C'est ce que fait la Poste à l'échelon international. Elle fait de ce qu'elle appelle la croissance externe. Elle achète des entreprises. La Poste française a essayé d'acheter la Poste grecque ou la Poste belge. Elle a acheté toute une série du colis qui était du colis d'une entreprise allemande, DPD. Tout cela, c'est des grandes manœuvres, exactement comme les autres entreprises. Donc là, c'est une logique financière. Alors pour ce qui est de la Banque Postale, je le disais tout à l'heure, c'est que jusqu'à présent, les CCP, ce n'était pas une banque. C'était quelque chose qui servait, c'est un service public qui permettait de capter l'épargne populaire et qui a longtemps servi à développer le logement social. Puisque cet argent, c'était l'État qui le gérait, les encours des livrets et des comptes qui permettaient de développer ça. Ça, ils ont dit, ça c'est une gestion à la petite famille, on n'a plus besoin de logements sociaux. Ce qu'il faut, mobiliser l'épargne pour des activités plus rentables. C'est la logique financière. Et donc, donc c'est pour cela que là, on a transformé les CCP, mais ça, c'est un choix politique, de la bourgeoisie française, disons, pour pouvoir utiliser ces fonds d'autres fins que le développement du territoire, etc. Donc, on a transformé les CCP en banque. Mais évidemment, comme on l'a transformé en banque, on arrive à la situation paradoxale où là, c'était les banques qui défendaient leur monopole. Parce que les banques étaient tranquilles, ils n'étaient pas concurrencés. Donc là, aujourd'hui, ils ont évidemment râlé, etc. Parce que comme la Poste était un nouveau intervenant sur le marché, et donc en contrepartie, ils ont obtenu les avantages qui étaient réservés à la Poste, les avantages sur le livret, etc. Voilà un petit peu ce qui fait... Alors après, c'est la Banque Postale, on le dénonce, parce qu'il y a déjà trop de banques, bien sûr, et surtout, c'est un moyen qui va permettre de rentrer la logique financière encore bien plus forte. On l'a vu tout à l'heure, comment les pressions sont faites sur les bureaux de poste pour qu'ils aient la même rentabilité que les guichets de banque. Et cet argent va être mis sur les marchés financiers, l'argent, les encours.
Donc qu'est-ce que cette Banque Postale va apporter finalement à nous en tant que citoyens, je veux dire,
L'augmentation des tarifs, puisque jusqu'à présent, les tarifs au CCP étaient ridiculement bas. Vous aviez la gestion des CCP, ça coûtait, je crois, 2 ou 3 euros, ben ça va augmenter. Beaucoup d'opérations étaient gratuites. Eh bien, maintenant, toute une série d'opérations. Alors, la Poste communique en disant qu'ils sont encore les plus bas du marché. Mais évidemment, quand vous aurez bientôt, vous irez retirer votre argent à la banque, à la Banque Postale, eh bien, vous paierez comme font la banque.
Un exemple,
ça vous amènera aux automates.
Par exemple, on vendait un produit qui s'appelait Adispo. C'était un pack où il y avait une assurance de compte avec un CCP, tout ça. Il a doublé, là. C'est simple. Depuis la mise en place de la Banque Postale, là, en 2 ans, donc la préparation de la mise en place de la Banque Postale, il a doublé. Et aujourd'hui, il n'est pas moins cher qu'ailleurs, quoi. Voilà. Et donc, à tous les niveaux des tarifications, c'est un petit peu ce qui va se passer, quoi, malheureusement.
Juste une question hyper concrète. Le gros problème, quand même, de la Poste, c'est la file d'attente. Est-ce qu'il y a un jour... Il y aura une idée, peut-être, une nouvelle idée qui séparera la queue pour ceux qui sont là pour la banque et ceux qui sont là pour la poste.
Alors attendez, là-dessus, il y a des pistes. Hein, notamment, on a développé un guide de file, je parle de mon bureau, qui a permis...
Vous n'allez pas me vendre un produit hein.
Non, du tout. Le guide de file, qui est tout simple, hein, a permis de diminuer le temps d'attente de moitié. Or, aujourd'hui, le problème qui est posé, à l'époque, pendant la période RTT, la Poste nous définissait un plan de mini-attente et qui était d'atteindre 5 minutes maximum dans la salle d'attente pour un usager. Voilà. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que les gens, les usagers qui ont du pognon soient servis de suite. Ouais. Et ceux qui n'ont pas de pognon, eux, ils peuvent attendre des heures.
Donc,
s'appelle la stratification des usagers. Ils seront servis en fonction de leur portefeuille, de leur surface financière.
Des clients, voilà. Des clients, Jean-Luc. Stratification, oui. Des clients.
Moi, je suis toujours sur les usagers.
Dès qu'il y a stratification, c'est client.
Client, oui, tout
c'est
à fait.
C'est plus usager, parce que les usagers ont les mêmes droits.
Voilà, donc le problème qui est posé, c'est ça. C'est que selon les clients, ils seront servis par un conseiller financier en niveau de classification supérieure sur lequel il y aura toute une palette de prestations proposées. s'ils ont une belle surface financière. S'il y a une surface financière moyenne, ils seront reçus par un commercial d'un niveau inférieur qui, lui, traitera son dossier. Et s'il y a une surface financière très basse, il fera la queue au guichet, sera servi par le guichetier, tout simplement.
Donc, si vous avez de l'argent, vous aurez des bons services de la Poste. Si vous n'en avez pas, eh ben, tant pis pour vous.
Voilà, on sera une banque en part entière.
Et pis que ça, c'est-à-dire qu'on va quand même essayer de diminuer les files d'attente en envoyant les gens sur les automates. Ça va être le moyen, ça va être de facturer les services. Quand vous irez déposer de l'argent au guichet de la Poste ou retirer votre argent, vous ferez comme à la banque. On vous fera payer parce que c'est plus cher de faire un service au guichet que de le faire aux automates. Donc, on renvoie les gens sur les automates, sur la plupart des opérations. C'est pour cela
qu'il ne marche pas la plupart du temps.
Oui, mais ça, après, ça, c'est plus le problème de la Poste. Et surtout, bon, on le voit par les automates et on le voit dans les bureaux de poste qui sont réduits. On fait la Poste, c'est ce qui lui coûte cher, c'est son réseau. C'est son réseau parce qu'elle est obligée de mettre en place des guichets dans des zones qui sont où il n'y a pas suffisamment de trafic pour qu'ils soient équilibrés. On disait, Marcel le disait, 11 000 bureaux. Il reste 6 000 bureaux qui sont considérés comme non rentables. On les transforme en agence postale communale. Les agents qui sont là ne seront plus payés par la Poste, ils seront payés par les communes. Ou alors, on externalise chez les commerçants. Donc là, il y a cette vision qui réduit le service, parce qu'évidemment, vous n'avez pas le même service dans un bureau de poste.
Je vous remercie tous les trois d'être venus discuter pendant une heure de l'évolution de la Poste et de l'arrivée donc de la Banque Postale et donc de la loi de marché dans le service public. Je vous propose de continuer la réflexion demain à 17h, cette fois-ci sur une thématique plus politique, puisque Marc s'attellera à répondre aux questions service public et politique. C'est une réflexion des représentants des partis politiques à propos des services publics, demain à 17h donc. Et puis vendredi, à partir de 19h10, une émission Écoute, une émission proposée par Nicolas Frise, accompagnée de Nelly Fleischer et Étienne Noiseau, en amont d'une émission création, on va dire, qui va être évidemment en lien avec l'événement maintenant qui a lieu à partir de 20h30 à la Friche La Belle de Mai. Nous serons donc en direct de cet événement, mais en transformant ce qui va être fait dans la nouvelle salle maintenant à la Friche, et on se réapproprie un petit peu le direct pour en faire nous-mêmes une création. Rendez-vous donc vendredi, soit à la Friche, soit à la radio, à partir de 19h10. Merci à tous et à bientôt.
Faut arrêter la machine. Faut arrêter la machine. Sinon.
Allez, vous allez l'entendre démarrer.
De la résidence de Nicolas Frise.